Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Serge Bounig du groupe Numéri Lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille dans cette troisième émission spéciale « Langues et cultures de l'Antiquité, des souris et des lettres ». Celle-ci est parrainée par M. Baudouin, IPR de lettres, et pilotée par Thierry Bayard. Vous entendrez également les voix d'Anne Burel, de Jeanne Dreveton et de Damien Aubryet. La réalisation technique de cet enregistrement est assurée par notre expert, Baptiste Voisin, dans un studio aménagé par le Canopé d'Orléans, que nous remercions sincèrement. Comme vous le constatez, chers auditeurs, tout est prêt pour aborder le thème de notre présente émission intitulée « Se former à la citoyenneté en utilisant la dynamique du projet en LCA ». Dans notre monde où les images de violence occupent tous les écrans, où les paroles de haine et d'exclusion s'expriment avec de moins en moins de retenue, beaucoup aspirent à des relations humaines plus apaisées, où la norme serait la civilité. Mais cette civilité n'est pas innée, elle se forge grâce à une éducation qui promeut un vivre ensemble harmonieux, dans lequel l'intérêt général n'est pas sacrifié aux égoïsmes particuliers. Parole d'idéaliste, me direz-vous peut-être. Mais cet idéalisme puise dans les racines les plus profondes de notre civilisation. C'est pourquoi il est d'actualité de proposer un enseignement renouvelé des langues et cultures de l'Antiquité qui permette à chaque élève qui nous est confié, et ceci dès le collège, de connaître les fondements et de mesurer le bien fondé d'un humanisme salutaire. Thierry Bayard, dans son éditorial, va trouver les mots justes pour nous en convaincre.
Je suis un citoyen romain, civis romanus sum. C'est par ces paroles, dont chacune est lourde de sens, que chez l'historien Tite Live, le héros des débuts de la République, Caius Mucius Scaevola, s'adresse au roi étrusque Porsena qu'il vient de tenter d'assassiner. Civis romanus sum, cri de fierté. Civis, je suis un citoyen. Je suis partie prenante d'une cité. Je suis libre et capable d'exprimer mon avis. Romanus, je suis romain. Je suis fier de cette origine qui me garantit cette liberté politique. Peu de temps après la chute de la monarchie à Rome, pour un romain, l'affirmation de la liberté fait partie de l'identité nationale, pour reprendre une thématique souvent débattue aujourd'hui. La citoyenneté, en Grèce comme à Rome, est porteuse de valeurs. Or, comment mieux interroger ces valeurs, qui pour beaucoup sont encore les nôtres, qu'en se référant aux textes et aux documents issus d'une antiquité qui les a vus naître? Comment mieux parler de notre temps, des enjeux de notre monde, qu'en faisant ce détour nécessaire et agréable par le passé? C'est le pari que nous faisons en cours de LCA. Convaincre les élèves, et les familles, et parfois aussi les collègues, que c'est par la prise de distance avec le présent qu'une véritable réflexion est possible, et ce dans un double sens. Au sens propre, les cultures de l'Antiquité nous renvoient un reflet de nous-mêmes. Elles nous obligent à nous observer, nous, nos institutions, nos valeurs. Et par là même, elles nous poussent à réfléchir. Connais-toi toi-même. La phrase de Socrate pourrait résumer l'objectif et donner la portée, l'importance de l'enseignement de LCA au collège et au lycée. En outre, cette réflexion sur l'Antiquité ne manquera pas d'entrer en résonance avec les objets d'études de nombreuses autres disciplines, des lettres à la philosophie, en passant par l'histoire ou l'éducation morale et civique. En ce sens, faire partager le patrimoine des civilisations antiques, grecques et romaines est au fondement de l'école de la République. Il est dès lors naturel que les LCA trouvent leur place dans le cadre des EPI au collège, ces enseignements pratiques interdisciplinaires qui ont pour objectif de favoriser le dialogue entre les différentes matières. Car les EPI concernent, par nature, tous les élèves, et pas seulement ceux qui choisissent, par goût ou par incitation familiale, d'apprendre la langue latine ou la langue grecque. Par les EPI, et une fois surmontés les obstacles concrets, pratiques, à leur mise en œuvre, il est possible de faire en sorte que la référence à l'Antiquité soit un socle commun, partagé par tous les élèves d'une classe d'âge. Quant à l'enseignement de complément au collège, que vient prolonger l'option au lycée, il a une véritable spécificité qui fait sa force, celle de permettre aux élèves qui le souhaitent d'approfondir la connaissance de ces cultures antiques par l'apprentissage des langues qui les ont vues naître. Par la pratique de projets, qui n'est absolument pas nouvelle dans notre champ disciplinaire, c'est enfin la construction de compétences civiques en actes qui est l'un des objectifs d'apprentissage. Et il est encore plus intéressant d'exercer ces compétences dans un domaine qui nous renvoie à la naissance de l'éloquence délibérative et judiciaire, à des langues qui ont donné naissance à des concepts de droit et de politique, à des langues qui ont pu même voir se créer l'idée qu'on pouvait être un citoyen du monde, cosmopolites, comme plus tard que le rapporte à propos de Socrate et comme les stoïciens le diront à leur tour sous l'Empire. Kiwis sum, donc. Mot d'ordre pour tous ceux qui découvriront les LCA à travers des projets de pays ou dans le cadre de l'option. Les langues et cultures de l'Antiquité ont ainsi toute leur place. Et comme nous le voyons, une place de choix dans la construction des compétences du domaine 3 du socle commun qui concerne la formation de la personne et du citoyen. Enfin, n'oublions pas que cette exclamation « Kiwis sum » a aussi été prononcée par des hommes qui souhaitaient, en rappelant ce statut, faire respecter leur liberté et leur personne. C'est le cas de ce citoyen dont parle Cicéron dans les Vérines. C'est aussi le cas de Paul de Tarse. Gageons que la pratique des LCA, au collège et au lycée, est pour les jeunes gens que nous formons un véritable moyen de lutter pour la liberté. Une arme humaniste contre tous les obscurantismes et les totalitarismes. Nous en avons bien besoin.
Vous savez, chers auditeurs des souris et des lettres, que les émissions spéciales animées par mes collègues enseignant les langues et cultures de l'Antiquité ont leur rubrique spécifique. Il s'agit de la désormais fameuse table ronde. Aujourd'hui, j'ai réuni pour vous, autour de ce micro, Jeanne Reveton, Anne Burel et Damien Aubryet. Dans le prolongement de l'éditorial de Thierry, ils vont débattre de la question suivante. Comment leur discipline, a priori tournée vers un passé fort lointain, contribue-t-elle à la formation de la personne et du citoyen du XXIe siècle? Oh, mais j'en sens une, Anne, qui brûle d'impatience de prendre la parole.
Évidemment que je brûle d'impatience de prendre la parole, Serge, car le cours de LCA a toujours été et demeure un lieu propice au questionnement sur la place de l'homme dans notre société. S'imprégner de la culture antique par la lecture des textes permet la mise à distance nécessaire pour évoquer des thèmes et des questions qui se posent encore aujourd'hui. Ce cours participe donc clairement à la formation de la personne et du citoyen.
Oui, d'ailleurs, Anne, les entrées thématiques des programmes nous invitent à réfléchir sur les rapports entre individus et société. Ils portent par exemple sur les institutions et la notion de citoyen au collège, ou encore sur l'étude de l'éloquence et du discours délibératif à travers les grandes figures héroïques et politiques de l'histoire grecque et romaine au lycée.
Tout à fait, et on peut sans hésiter débattre et discuter avec les élèves de thèmes aussi actuels que les préjugés et les stéréotypes, les droits et les devoirs du citoyen, la problématique de l'égalité homme-femme, la place et l'acceptabilité de la violence dans les sociétés. Aussi, faire comprendre aux élèves la profondeur historique du droit, le rôle des textes argumentatifs oraux dans la société, comme les discours délibératifs, ou les éloges funèbres, par exemple, que Thierry évoquera tout à l'heure dans la rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ».
D'ailleurs, il y a peu, une élève de 4e nous faisait remarquer la spécificité de Rome, avec la possibilité qu'on y avait de changer de statut, et passer, par exemple, de celui d'esclave à celui d'affranchi. Elle recherchait ce qu'il en était dans notre société où, d'après elle, les exclus avaient toutes les chances de rester exclus. La médiation de l'Antiquité permet souvent une prise de conscience plus aiguë des problématiques de notre société actuelle. Nous en faisons l'expérience quotidiennement.
Et cette relecture de l'Antiquité n'est pas propre à notre époque, hein. Par exemple, lorsque je fais travailler mes élèves en groupe différencié sur les péplums en salle informatique, mon objectif est qu'à terme, ils réalisent qu'on apprend autant, sinon plus, sur l'époque qui a produit ces péplums que sur l'Antiquité elle-même.
À mon sens, paradoxalement, c'est parce que ces langues anciennes sont aujourd'hui très lointaines dans le temps, tant dans leur fonctionnement que dans les valeurs qu'elles véhiculent, pour un adolescent originaire de la rive sud ou de la rive nord de la Méditerranée, qu'elles peuvent redevenir familières par la réappropriation d'un passé commun et faire écho aux événements présents.
Damien, pourrais-tu nous donner un exemple de cela ?
Bien sûr, Serge. L'actualité internationale tragique relative aux migrants au large de la Libye, qui tentent par milliers, au péril de leur vie, de rejoindre les côtes italiennes et l'Europe, m'a amené à me replonger dans un récent essai de Patrick Voisin intitulé « Il faut reconstruire Carthage, Méditerranée et langues anciennes » paru en 2007. Dans cet ouvrage absolument captivant, l'auteur, professeur de LCA en classe préparatoire à Pau, envisage l'appartenance à un terreau commun, celui de l'Euro-Méditerranée, lieu de rencontre entre le Nord et le Sud, et non seulement foyer important de la latinité antique, mais aussi vivier de confrontations multiples entre différentes cultures, de métissage et d'acculturation. Il est question, selon lui, d'une même civilisation faite d'une foule de diversités qui réunissait autrefois l'Europe, la Méditerranée et l'Asie mineure. Cet héritage, que la Méditerranée porte toujours en son sein, ainsi que l'étude des langues et cultures de l'Antiquité, peuvent contribuer à construire une interculturalité qui favoriserait la prise en compte et la valorisation de tous les éléments culturels qui existent dans chacun des pays de part et d'autre de la Méditerranée.
Oui, mais précisément, Damien, comment as-tu abordé cette question avec les élèves de ton établissement ?
La découverte par les élèves du monde méditerranéen antique fait partie des trois thèmes d'études possibles pour la construction de séquences sur les trois niveaux du collège. Il se trouve que le public accueilli au collège du Grand Clos à Montargis, récemment classé en réseau d'éducation prioritaire, provient de nombreux pays autour de la Méditerranée. Cette spécificité se retrouve naturellement dans mes classes de latinistes. Aussi m'a-t-il paru intéressant de mettre en place, dès cette rentrée 2016, en classe de 5e, un enseignement pratique interdisciplinaire intitulé simplement « Mare Nostrum », d'une durée semestrielle, qui permettrait à chacun de porter ses regards sur l'autre et sur l'ailleurs.
Et avec quelle discipline as-tu travaillé cet épi ?
Avec les arts plastiques et l'éducation musicale. Les élèves effectuent leur recherche au CDI avec la collègue documentaliste et j'ai récemment eu confirmation qu'une conférence pédagogique de l'association Horizon Antique de l'École normale supérieure d'Ulm aurait lieu au printemps prochain.
Et peux-tu nous décrire précisément cet épi ?
Oui, Serge. Le scénario retenu se place sous l'Empire romain, au 2e-3e siècle après Jésus-Christ. Dans le monde antique, on n'hésite pas à se déplacer sur de longues distances, sur terre et sur mer. Qu'on songe seulement aux périples d'Ulysse, de Thésée, de Jason, aux voyages de Paul de Tarse, à ceux des empereurs Néron et Adrien. Ces déplacements ne sont pas dénués de risques et de nombreux dangers de types divers menacent les voyageurs. Il est question, dans ces séances pédagogiques, d'un jeune Romain que son père envoie parfaire son éducation supérieure à Rhodes, important centre de formation intellectuelle dans l'Antiquité. Marcus va en profiter pour faire du tourisme culturel tout autour de la Méditerranée, en privilégiant plusieurs des 7 merveilles du monde.
Et naturellement, il embarque à Ostie, le port de Rome.
Oui, on en découvre l'activité fourmillante au travers de ses mosaïques. Puis, direction la Campanie, afin que son meilleur ami, Publius, le rejoigne à Puteoli, l'actuel Pouzzole. Une fois réunis, les deux jeunes gens assistent à un combat de gladiateurs. Le lendemain, les deux amis cinglent sur Carthage, puis, de semaine en semaine, ils vont se rendre à Leptis Magna, l'actuel Lebda, en Libye, à Alexandrie, à Éphèse, avant d'arriver à leur destination finale, Rhodes. Leur voyage, rempli de surprises, de découvertes et de dangers, n'est assurément pas de tout repos.
Et quelles sont donc tes sources ?
Le travail est fondé sur différents récits de voyages antiques, sérieux ou tout à fait loufoques, sur des extraits de bandes dessinées, sur des réalias antiques exhumées lors de fouilles archéologiques, ainsi que sur des représentations artistiques modernes de sites antiques. Je voudrais ajouter un élément qui me tient à cœur. Cet EPI permet de partir à la rencontre de l'autre, par exemple au travers des portraits du Fayoum, de découvrir son alimentation, son mode de vie, sa religion, ses instruments de musique, dans le but d'aborder avec les élèves la compréhension d'un espace pluriel. La connaissance des langues et cultures de la Méditerranée permet de réunir les hommes, de mieux comprendre leurs différences, voire de corriger certaines représentations. Ainsi, la découverte par les élèves des villes splendides de l'Afrique romaine, ou bien encore des magnifiques villae de Céline et de Zlitten à Leptis Magna, leur permet de comprendre comment l'Afrique apparaît comme un joyau de l'Empire romain actuellement menacé et peut ainsi contribuer à leur redonner un peu de fierté perdue.
D'accord, Damien, mais dans tout ce travail que tu nous proposes et qui est très riche, quelle est la part créative des élèves ?
En fin d'année scolaire, l'ensemble des séances de l'EPI aboutit à une exposition réunissant les panneaux de la grande fresque représentant la mer Méditerranée. Les parents qui savent jouer d'un instrument de musique offrent un concert méditerranéen à l'assistance invitée. Et le tout est naturellement suivi d'un buffet méditerranéen. Cet EPI de langues et cultures de l'Antiquité permet de contribuer, à sa mesure, à la construction de valeurs communes, à savoir le respect de l'autre, l'attention à son identité spécifique, notion d'une actualité cruelle qui conduisent naturellement à de féconds débats au sein de la classe. In varietate concordia.
Damien vient d'évoquer les EPI. Est-ce à dire, Jeanne, que les projets proprement disciplinaires LCA ont disparu de l'enseignement ?
Non, Serge, car les EPI s'adressent à tous les élèves, alors que l'enseignement LCA s'adresse aux élèves volontaires qui se sont inscrits pour recevoir cet enseignement. Ce ne sont donc pas nécessairement les mêmes élèves, le même public, avec les mêmes attentes, le même rapport à l'Antiquité qui sont concernés non plus. Les projets dans la discipline demeurent.
Et j'ajoute que les deux types de projets, disciplinaires et interdisciplinaires, ne s'opposent pas, mais se complètent. Ils permettent tous les deux à l'élève de faire vivre les valeurs étudiées par ailleurs, que sont par exemple l'engagement, la prise de responsabilité, l'expression du jugement et de sa sensibilité dans le respect de l'autre, qu'il soit disciplinaire ou interdisciplinaire.
Et d'ailleurs, dans la démarche même de l'apprentissage par projet, fait vivre, comme tu viens de le dire, Anne, ses valeurs du domaine 3 et contribue à l'éveil d'une conscience civique, à la fois en classe, mais aussi dans les espaces numériques de travail. Par exemple, les espaces collaboratifs numériques ne peuvent pas fonctionner sans respect de règles établies dès le départ. Un exemple, j'avais préparé un pad pour faire une analyse de texte en latin. Et lors de cette préparation, un groupe des latinistes, chez lui donc, ou en permanence, avait supprimé toutes les remarques des autres élèves. Cela a donné lieu à une discussion autour de l'intérêt des brouillons, du respect des idées d'autrui, suivi de la mise en place d'un code à respecter dans les lieux de travail collaboratifs.
Tu évoques les échanges entre élèves à la suite là, d'une erreur ou d'un conflit. Mais il ne faut pas oublier qu'il en existe d'autres natures lors des travaux collaboratifs. Je pense par exemple à une discussion entre élèves en fait, que j'ai captée l'an dernier lors de leur phase d'enregistrement d'un feuilleton radiophonique en classe de grec. Et d'ailleurs, je vous propose d'en écouter un extrait maintenant.
Mais au moment où les Thébains se réjouissent, Iris, la messagère des dieux, vient annoncer qu'Héra rumine sa vengeance. Telle une vache et ordonne aux Zérins, qui sont des déesses de la vengeance.
Non, mais non, attends, faut recommencer là, ça va pas.
Regarde, déjà. C'est Irinis, pas Zérin. Quand tu fais la blague là sur qui rumine comme une vache, faut que tu l'accentues cette blague. Tu sais, c'est rigolo. Genre après, tu fais Héra, qui rumine sa vengeance telle une vache.
Nous entendons bien dans cet extrait entre les élèves comment ils ont travaillé ensemble et comment finalement le travail de groupe est possible et enrichi grâce à l'outil numérique. Et ça leur a permis d'être totalement acteurs de leur apprentissage, d'assurer des rôles et notamment pour Thomas, celui de conseiller de ses pairs.